Chapitre 10. J'ai traversé le parking des employés pour la troisième fois, pas tout à fait en courant. De nouveau, j'ai tapoté le coffre de la Plymouth Fury bicolore blanc sur rouge en passant. Pour me porter chance, je suppose, comme on touche du bois. Parce que de la chance, j'allais en avoir bien besoin durant les semaines, les mois et les années à venir. Cette fois-ci, je ne suis pas passé par la Kennebec Fruit Company et je n'avais pas davantage l'intention d'aller faire les boutiques ni de m'acheter une voiture. Tout ça pourrait attendre le lendemain ou le surlendemain, car aujourd'hui risquait de ne pas être le meilleur jour pour traîner dans les rues de Lisbon Falls, surtout pour un étranger. Incessamment sous peu, quelqu'un allait découvrir un cadavre dans la cour de l'usine et un étranger risquait d'être interrogé. Les papiers d'identité de George Amberson ne tiendraient pas longtemps le coup, surtout avec un permis portant l'adresse d'une maison dans Bluebird Lane qui n'avait pas encore été construite. J'ai atteint l'arrêt de bus des ouvriers pile au moment où le bus affichant Lewiston Express arrivait en trombe. Je suis monté et j'ai refourgué le billet de 1 $ qui traînait dans ma poche, celui que j'avais mis de côté pour carton jaune. Dans un bruit de ferraille, le chauffeur a actionné le monnayeur qu'il portait à la ceinture et m'a tendu une poignée de pièces. J'ai lâché 15 cents dans le distributeur de tickets et zigzagué à travers l'allée pour aller m'asseoir dans le fond, derrière deux marins boutonneux, probablement de la base aéronavale de Brunswick, qui parlaient de filles qu'ils espéraient voir dans une boîte de striptease appelée le Holy. Leur conversation était ponctuée de solides bourrades dans l'épaule et d'une bonne dose de rire bien gras. Je regardais la route 196 défiler sans vraiment la voir. Je n'arrêtais pas de penser aux morts et au carton qui maintenant était noir. J'avais tenu à m'éloigner de ce cadavre le plus rapidement possible, mais je m'étais arrêté suffisamment longtemps pour toucher le carton. Il n'était pas cartonné comme je me l'étais toujours imaginé, ni plastifié. Peut-être du celluloïde. Mais d'après sa texture, ce n'était pas vraiment ça non plus. En fait, on aurait plutôt dit de la peau morte, comme celle qu'on arrache d'un cale. Il n'y avait rien d'écrit dessus, du moins d'après ce que j'avais pu en voir. Al pensait que carton jaune n'était rien de plus qu'un ivrogne qui devait sa folie à l'association malheureuse du pinard et de la proximité du terrier. Je n'avais pas mis en doute cette interprétation jusqu'à ce que le carton vire à l'orange. Mais maintenant, je faisais plus que la mettre en doute. Je n'y croyais plus un brin. C'était quoi ce type, de toute façon? Un macabée. Voilà ce que c'était. Voilà tout ce que c'est. Alors laisse tomber. T'as d'autres chats à fouetter. Quand on a dépassé le cinéparc de Lisbonne, j'ai tiré sur le cordon d'arrêt. Le chauffeur s'est arrêté au poteau téléphonique peint en blanc suivant. « Passez une bonne journée !» J'ai lancé alors qu'il actionnait la manette d'ouverture des portes. « Y a rien de bon dans cette journée, mis à part une bonne bière bien fraîche à la débauche !» répliqua-t-il en allumant une cigarette. Quelques secondes encore, et je me retrouvais sur le bas-côté gravillonné de la Nationale, ma sacoche pendant au bout de mon bras gauche, regardant le bus s'éloigner lourdement vers Lewiston, suivi par un nuage de fumée noire. Il y avait une réclame à l'arrière montrant une ménagère, casserole rutilante dans une main, tampon à récurer SOS Magic dans l'autre. Ses yeux bleus immenses, son rictus laissant voir ses dents entre des lèvres écarlates, évoquaient une femme au bord d'une crise de nerfs fatale. Le ciel était sans nuages. Les grillons chantaient dans les hautes herbes. Une vache meuglait au loin. Une fois la puanteur du diesel emportée par la brise légère, l'air sentait le bon, le frais, le neuf. J'ai entamé les 500 mètres environ qui me séparaient du Tamarack. Ce n'était pas bien loin. Mais avant que j'atteigne ma destination, deux automobilistes s'arrêtèrent pour proposer de m'emmener. Je les ai remerciés en leur assurant que j'étais content de marcher. Et c'était vrai. En arrivant au Tamarack, je sifflotais. Septembre 1958, États-Unis d'Amérique. Carton jaune ou pas, ça faisait plaisir d'être de retour. J'ai passé le reste de la journée dans ma chambre à éplucher pour la énième fois les notes de Hall sur Oswald, me concentrant désormais sur les deux dernières pages intitulées « Conclusion sur la marche à suivre ». Regarder la télé, qui n'avait en tout et pour tout qu'une seule chaîne, relevait de l'absurde. Aussi, une fois le crépuscule tombé, suis-je descendu tranquillement vers le cinéma en plein air, où j'ai acheté pour 30 cents un billet à tarif réduit pour les spectateurs à pied. Il y avait des chaises pliantes installées devant le snack bar. J'ai acheté du pop-corn et une boisson à la cannelle appelée Pepsol. Puis j'ai regardé Les Feux de l'été en compagnie d'autres spectateurs venus à pied comme moi. Une majorité de gens âgés qui se connaissaient et devisaient aimablement. Il faisait déjà frais quand Vertigo commença et je n'avais pas de veste. Je suis donc retourné au motel où j'ai dormi d'un profond sommeil. Le lendemain matin, j'ai repris le bus pour Lisbon Falls. Pas de taxi. J'avais un budget à respecter, du moins temporairement. J'ai d'abord fait halte au Jolly White Elephant. Il était tôt, le fond de l'air était frais et le beatnik était encore à l'intérieur en train de lire Argosy sur un canapé miteux. « Salut, voisin !» me lança-t-il. « Salut à vous. J'imagine que vous vendez des valises ?» Oh, j'en ai quelques-unes en stock. À peu près 200-300. Tout au fond. Et à droite, ai-je complété. C'est ça. Vous êtes déjà venu? On est tous déjà venus, ai-je répondu. Il y a comme un air de déjà-vu. Il a rigolé. Mortel, Jackson! Allez-vous en choisir une au poil. J'ai choisi la même valise en cuir. Puis j'ai traversé la rue pour aller m'acheter la même Sunliner. Cette fois, j'ai réussi à l'avoir pour 300 $. Le marché conclu, Bill Titus m'expédia voir sa fille. « Vous n'avez pas l'accent d'ici ?» me dit-elle. « Origine Wisconsin, mais ça fait un petit moment que je suis dans le Maine, pour affaires. Oh, j'imagine que vous n'étiez pas dans le coin hier, hein ?» Quand j'ai dit non, elle a fait claquer son chewing-gum et dit « Vous avez loupé de l'action. On a retrouvé un vieil ivrogne zigouillé derrière le séchoir de l'usine. » Elle baissa la voix. Suicidé. Il s'est tranché la gorge avec un tesson de bouteille. Vous imaginez ça? C'est horrible, j'ai dit en glissant la facture dans mon portefeuille. J'ai fait sauter les clés dans ma paume. Quelqu'un d'ici? Non. Et pas de papier sur lui. Il avait dû descendre d'un wagon de marchandises, d'après mon père. Peut-être pour la saison des pommes à Castle Rock. Mr. Caddy, au front vert, lui a raconté qu'il était venu hier matin pour s'acheter une bière. Mais comme il était saoul et qu'il puait, Mr. Caddy l'a foutu dehors. Bah alors du coup, il a dû aller se boire ce qui lui restait derrière l'usine et quand il n'y en a plus, il a cassé sa bouteille et il s'est tranché la gorge avec un morceau de verre. Elle répéta « Vous imaginez ça ?» J'ai fait l'impasse sur le coiffeur et sur la banque aussi, mais je suis retourné m'acheter des vêtements chez Mason's Menswear. « Ah, vous devez aimer cette nuance de bleu !» a commenté le caissier en soulevant la chemise posée sur le dessus de ma pile. « C'est la même couleur que celle que vous portez !» En fait, c'était la chemise que je portais, mais je n'ai rien dit. Ça n'aurait fait que nous embrouiller tous les deux. Ce jeudi après-midi, j'ai pris l'autoroute 1 mile par minute vers le nord. Cette fois-ci, je n'ai pas eu besoin de m'acheter un chapeau à mon arrivée à Derry, car j'avais eu la présence d'esprit de rajouter un chouette chapeau de paille tressé à mes emplettes chez Mason. Je me suis enregistré au Town House, j'ai pris mon déjeuner dans la salle à manger, puis je suis allé faire un tour au bar où j'ai commandé une bière à Fred Toomey. Ce coup-ci, je n'ai fait aucun effort pour engager la conversation. Le lendemain, je louais mon ancien appartement de Harris Avenue et bien loin de m'empêcher de dormir, le bruit des avions a favorisé mon sommeil. Le surlendemain, Je poussai la porte de chez Macken et racontai au vendeur que je voulais acheter un revolver, car vous comprenez, je suis dans l'immobilier, et patati et patata. Il m'apporta mon 38 spécial police et me répéta encore une fois que c'était une bonne arme de poing. Je l'ai acheté et rangé dans ma sacoche. J'avais envie de remonter Kansas Street pour aller voir Bévy, la fille qui aime la vie, et Richie, n'entrave que Chi, pratiquaient leurs passes et leurs feintes sur la petite aire de pique-nique, puis je me suis aperçu que je les avais loupés. J'aurais dû penser à jeter un coup d'œil au dernier numéro du Daily News de novembre lors de mon bref retour en 2011. J'aurais pu savoir s'ils avaient gagné leur tournoi ou pas. J'ai pris l'habitude de passer prendre une bière au Lamplighter en début de soirée, avant que l'endroit ne commence à se remplir. Je commandais parfois des miettes de homard frit. Je n'y ai jamais aperçu Frank Dunning, et ça tombait bien, je n'en avais aucune envie. J'avais une autre raison de m'y rendre régulièrement. Si tout se passait comme prévu, je partirais bientôt pour le Texas. Et avant ça, je comptais me renflouer un peu. J'ai sympathisé avec Jeff, le barman, et un soir, il a lancé le sujet de conversation que j'avais moi-même l'intention d'aborder. « T'es pour qui dans les séries, George ?»«
Les Yankees, bien sûr. »«
C'est toi qui dis ça ? » ?»«
Un gars du Wisconsin. »
Ça n'a rien à voir avec là d'où je viens. Les Yankees sont l'équipe de l'année. C'est moi qui te le dis. Aucune chance. Leurs lanceurs sont vieux. Leur défense est mauvaise. Mantle a les rotules qui flanchent. La dynastie des Bronx Bombers est terminée. Milwaukee pourrait bien gagner, tiens. J'ai rigolé.
Il y a du vrai dans ce que tu dis, Jeff. T'as l'air bien informé.
Mais avoue, comme tout le monde en Nouvelle-Angleterre, tu détestes les Yankees. Du coup, ton jugement est faussé.
On parie.
Pourquoi pas. $5. Je mets un point d'honneur à pas extorquer plus aux esclaves salariés. Alors.
Alors c'est d'accord.
Et on a scellé ça d'une poignée de main.
Bon, j'ai dit. Tant qu'à parler baseball et paris, les deux grands sports de l'Amérique, tu saurais pas où je pourrais vraiment passer à l'action dans cette ville ? Pour te la faire courte, j'aimerais parier gros. Serre-moi une autre Nasty Gansett et prends-en une au passage.
Il a rigolé tout en nous remettant une tournée de bière Narragansett, que je savais maintenant appeler par son surnom. À Rome, mieux vaut dans la mesure du possible savoir causer comme les Romains. On a trinqué. Puis Jeff m'a demandé ce que j'entendais par « parier gros ». J'ai fait semblant de réfléchir, puis je lui ai dit
« $500 sur les Yankees ? Alors que les Braves ont Span et Burdett ? Sans parler de Hank Aaron et Eddie Matthews ? T'es timbré ? » ?»«
Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On verra ça le 1er octobre, pas vrai ? Alors ?» Tu connais quelqu'un à Derry qui prendrait un pari de cette importance ? Est-ce que je me doutais de sa réponse ? Non, je ne suis quand même pas devin. Est-ce que j'en fus surpris ? Non plus. Parce que le passé n'est pas seulement tenace. Il est en harmonie avec lui-même et avec le futur. Et j'ai entendu à maintes reprises résonner cette harmonie.
Chas Fratty. Oh, tu l'as probablement déjà aperçu ici. Il est prêteur sur gage plus que bookmaker, mais il sait comment s'occuper pendant les séries mondiales et les tournois de basket et de football interlycée.
Et tu penses qu'il prendrait mon pari ?
Bien sûr ! Il te donnera la cote et tout le reste.
Juste un truc. Il regarda autour de lui, constata que nous étions encore seuls au bar, puis baissa quand même la voix pour me chuchoter.
Le cherche pas, George. Il connaît des gens, et pas n'importe lesquels.
Entendu, j'ai dit. Merci pour le tuyau. Tu sais quoi ? Je vais te faire une faveur. Je te ferai cadeau des $5 quand les Yankees gagneront les séries. Le lendemain, je suis allé à La Sirène, le mont de piété de Chas Fratty, où je fus accueilli par une grosse dame au visage imperturbable et qui devait bien peser dans les 150 kilos.
Elle portait une robe violette assortie d'un collier indien et ses pieds gonflés étaient chaussés de mocassins. Je lui expliquais que je souhaitais m'entretenir d'importantes questions sportives avec Mr. Fratty.
Oh, « Vous voulez dire « Paris sportif » en langage normal ?»«
Vous êtes flic ?» Je lui ai demandé.
« Ouais. » Qu'elle m'a fait en sortant un taparillo de sa poche et en l'allumant avec un zippo. « Je suis J. Edgar Hoover, fiston. »
« Eh bien, monsieur Hoover, vous m'avez eu, je parle bien d'un pari. »«
Baseball ou football ?»«
Je suis pas d'ici. » »« Alors en football, j'aurais bien du mal à distinguer un tigre de Derry d'un babouin de Bangor. » »«
Baseball. »
La femme gagna le fond de la pièce où elle passa la tête derrière un rideau, me présentant au passage ce qui devait être l'un des plus gros postérieurs du Maine central, et braya.
« Hé, Chazzy ! « Ramène-toi, il y a un gogo pour toi !»
Fratty apparut et embrassa la grosse bonne femme sur la joue.
« Merci, mon amour. »
Il avait les manches retroussées et j'ai pu voir sa fameuse sirène.
« Que puis-je faire pour vous ?»«
George Amberson. » Je lui ai tendu la main.
« Je suis du Wisconsin. Et bien que mon cœur appartienne aux petits gars de chez moi, quand il s'agit des séries mondiales, j'ai le porte-monnaie du côté des Yankees. »
Il se tourna vers l'étagère derrière lui, mais la grosse dame avait déjà ce qu'il cherchait. Un registre vert tout éraflé avec « Prêt personnel » écrit en gros sur la couverture. Il l'ouvrit et le feuilleta jusqu'à une page vierge en humectant régulièrement son doigt.
« Combien dans ton porte-monnaie, cousin ?»«
Quel code j'aurais pour 500 $ gagnants ?»
La grosse rigola et souffla la fumée de son cigarillo. « Sur les Bombers ? Nul, cousin, nul !»«
Quel code pour 500 $, Yankees gagnant en 7 matchs ?» Il réfléchit, puis se tourna vers la grosse dame. Elle secoua la tête, toujours amusée.
« Ça marchera pas !» dit-elle. « Si tu me crois pas, envoie un télégramme et vérifie la ligne de cote à New York. »
J'ai soupiré tout en pianotant des doigts sur une vitrine remplie de montres et de bagues.
D'accord. Écoutez plutôt ça.
500 que les Yankees remontent au score après 3-1. Fratty se mit à rire.
Oh, t'as le sens de l'humour, cousin.
Laisse-moi juste voir avec la patronne. Il alla s'entretenir à voix basse avec la grosse dame. Il avait l'air d'un hobbit de Tolkien à côté d'elle. Puis il revint au comptoir.
Si je pense ce que tu penses, je prends ton pari à 4-1. Mais si les Yankees ne remontent pas la pente après 3-1, tu perds ta mise. Que ce soit clair entre nous, cousin.
Très clair, j'ai dit.
Mais sans vouloir vous offenser, ni vous ni votre ami, nous sommes mari et femme,
a corrigé la grosse dame, pas amie. Et elle a ri de plus belle.
Sans vouloir vous offenser, ni vous ni votre dame, 4-1, ça le fait pas.
8-1, en revanche, ça c'est une bonne prise de risque, pour vous comme pour moi.
Je vous donne à 5-1 et on s'arrête là, a dit Fratty. Pour moi, c'est juste de l'argent de poche. Vous voulez Vegas ? Allez à Vegas.
7, j'ai dit.
Allez quoi, monsieur Fratty ? Suivez-moi sur ce coup-là. »
Lui et sa grosse femme se concertèrent. Puis il revint et me proposa 6-1, que j'acceptai. Ça restait une petite cote pour un tel pari, mais je n'avais pas envie de vexer Fratty. C'est vrai qu'il m'avait bien embobliné pour le compte de Bill Turcott, mais il avait sa raison. De plus, c'était dans une autre vie.